la liberté allait nous faire perdre l'autonomie.
Aujourd'hui, mes copains agriculteurs, moi je suis du Sud, me disent qu'ils se font piller les champs. Parce que ça devient dur de se nourrir. Enfin, c'est un élément tellement clé. Moi, je ne comprends pas qu'un lundi matin, là où c'est le plus étonnant, c'est que ça serait une mesure pour le gouvernement qui le ferait tellement populaire. Le premier gouvernement qui dit, écoutez, on va protéger les producteurs et la nourriture qui nous amène tous les jours. On est tous d'accord, on y met les moyens qu'il faut. Déjà, on part de là. Et ensuite, quand on aura sécurisé cette nourriture, on pourra s'occuper du reste. Mais comment se fait-il, alors qu'on est 90% à être d'accord avec cette protection, que rien ne se fasse de durable? On a fait au bureau la liste des demandes des producteurs, je l'ai fait avec l'aide des producteurs, et en face, ce qui a été amené comme solution. Je n'arrive pas à comprendre, parce que dans ces cas-là, il y a bien quelqu'un qui devrait être gagnant à nous mettre dans cette situation collective. C'est rare quand on dramatise un peu, parce qu'on est plutôt dans le positif, mais je pense qu'il faut repasser par là pour se mettre un petit coup de pied aux fesses collectif et surtout très vite s'accrocher à la bonne nouvelle du fait que c'est nous qui tenons le volant de cette consommation par nos actes d'achat. Si à un moment donné on décide d'acheter différemment, le monde bouge.
On est en direct avec Monique. Monique qui nous appelle de l'Allier, département agricole.
Bonjour Monique. Bonjour et merci beaucoup de prendre mon appel. Déjà, merci aux intervenants et à Marie-Estelle pour la qualité de cette émission. Voilà, moi je suis femme d'agriculteur et mère d'agriculteur. Et je voudrais quand même témoigner sur ce métier qui est quand même magnifique. Même s'il est dur, c'est vrai qu'on peut pas parler de vacances, on n'a pas les 5 semaines de vacances. Ceci dit, quand on est passionné, Marie qui était passionnée par l'agriculture et qui a transmis sa passion. Et du coup, j'ai 2 fils qui ont repris l'exploitation, qui est en polyculture élevage. Et je disais à la personne que j'avais eue que je trouvais que c'était un des métiers, un des rares métiers où les enfants pouvaient vivre le métier de leurs parents en direct. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Et que ils peuvent participer, s'ils le souhaitent, très jeunes, au métier de leurs parents. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et j'espère que ça va continuer, que ce métier va pouvoir continuer à perdurer et dans des bonnes conditions parce qu'effectivement, maintenant, on gagne plus d'argent à faire du bureau que d'être sur le terrain et c'est quand même très triste. Voilà.
Cette transmission et cet héritage transgénérationnel où on apprend aussi les savoir-faire et comme vous le dites, c'est très beau. Malheureusement, pour les générations actuelles, c'est en train de devenir un fardeau. En fait, on voit la loyauté qui les relie pour certains à l'exploitation, qui ne peuvent pas abandonner, qui ne veulent pas vendre. Et ça les met dans des situations de tension extrême à peine pouvoir nourrir une famille où il n'y a qu'un seul enfant, quoi, eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment profondément révoltant. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils en disent, vos enfants, vos fils ?
Alors moi, mes fils, en fait, pour toute la partie céréales, ils sont en groupement d'agriculteurs, donc ils ont du matériel en commun. On a la chance d'avoir des jeunes, bon, ils ont 40 et 35 ans, et ils ont quand même deux autres jeunes qui sont installés dans un rayon de 5 km et ils achètent du matériel en commun, ce qui permet, et ils font les gros travaux en commun, ce qui permet de se remonter le moral quand il y en a un qui flanche. Et c'est très... Voilà, le problème de l'agriculture, souvent, c'est que les gens sont dans leur coin tout seuls, quoi. Je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est souvent ça et on n'ose pas parler. Et pourtant, il y a plein de structures qui existent pour mutualiser un peu les travaux, mais c'est quand même souvent des gens qui aiment leur indépendance, je pense.
Ouais. Et dans votre cas, Monique, vos deux enfants parlent entre eux, s'épaulent?
Alors oui, en fait, ils ont chacun leur domaine de prédilection, j'allais dire. Il y en a un qui est plus axé sur l'élevage et l'autre sur les céréales et toute la partie comptable. Mm-hmm. Voilà. Et c'est deux caractères différents, mais qui se complètent. Après, je ne vous dis pas que c'est sans difficulté. Hein,
oui, en fait, oui, oui.
Mais je pense que c'est quand même une des solutions. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'un comme l'autre ne voulait pas faire de l'agriculture, de reprendre une exploitation tout seul. C'est quand même très lourd pour les familles quand, que ce soit pour les week-ends, ils peuvent se interchanger. C'est ce qui est quand même c'est plus facile à l'heure actuelle.
Ils peuvent instaurer des tours de garde, entre guillemets.
Voilà. Et d'accord. C'est vrai que nous, on était tout seuls. On n'en a pas souffert, mais l'évolution fait que maintenant, les femmes travaillent à l'extérieur et que, voilà, on n'a pas le même style de vie pour les jeunes actuels que pour nous. On ne vit pas tout à fait de la même manière. Mais ceci dit, je pense qu'on peut encore vivre de ce métier à condition d'être d'être raisonnable et d'avoir quand même une structure suffisamment, une structure qui permet quand même de pouvoir tirer profit de ce métier. C'est pas le tout de travailler comme des dingues et pas gagner un centime. C'est pas logique.
Raisonnable et inventif. Ils ont été inventifs, voilà. Visiblement. Exactement. Ils ont fait preuve de flexibilité mentale.
Voilà. Et puis, effectivement, nous, on avait eu des périodes plus compliquées où on a changé un peu nos systèmes de production. Enfin, voilà, il faut aussi... c'est sûr qu'on prend des risques. Dans ce métier, on prend des risques financiers et on est quand même vite sollicité par des intégrateurs, et ça, il faut se méfier, quoi, parce que c'est pas eux qui vont perdre de l'argent, quoi. Je trouve qu'il faut avoir la tête sur les épaules, quoi, dans ce métier.
Qu'est-ce qu'ils disent de ce qui est en train de se passer, votre mari et vos fils, et puis vous, ils expriment quoi comme besoin par rapport au Mercosur notamment? Ils disent ils auraient besoin de clauses de sauvegarde, ils auraient besoin quoi, de renégocier des choses, ils auraient besoin d'un miroir réglementaire pour aligner les mesures en fonction des pays, ils auraient besoin de quoi?
Je pense que ce qui est le plus difficile, c'est que en fait, au sein de l'Europe, on n'exige pas la même chose, on n'a pas les mêmes normes. Et ça, c'est grave, je trouve, parce que du coup, sans parler du Mercosur, mais rien que déjà en Europe, il y a des produits qu'on nous interdit ici, qui sont permis dans d'autres pays d'Europe, et c'est pas normal, parce qu'il faudrait quand même déjà qu'on soit un petit peu plus sur la même longueur d'onde. Au moins, on serait plus fort, je pense.
Après, c'est-à-dire, en fait, soit on aligne tout, soit on aligne rien.
Voilà, exactement. Et puis on ne dit pas une fois, on va permettre, on vous interdit tout le glyphosate, et puis deux ans après, on vous dit, finalement, on va le laisser. Vous voyez, c'est quand même très pernicieux. Et puis en fait, le problème de l'agriculture, c'est qu'il y a tellement de problèmes différents selon les activités agricoles qu'on a. C'est difficile déjà d'uniformiser l'agriculture en France, déjà, entre les maraîchers, les producteurs de bovins, les moutonniers, il y a beaucoup les éleveurs laitiers. On n'a pas forcément tous les mêmes problèmes, quoi. Vous voyez ?
Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Nicolas, à Monique ?
Oui, je retrouve tellement des témoignages, évidemment, que nous, on a depuis 10 ans. C'est fou pour nous aussi, consommateurs. C'est pas un problème simplement des producteurs avec l'Europe. Quand vous avez de la nourriture qui vient du bout du monde, avec des produits, des intrants interdits en France, pour des bonnes raisons, qui peuvent, par tolérance, arriver jusque dans nos assiettes. Il faut vraiment se rendre compte de l'absurdité. Après, il faut parler de la fragilité immense. Et c'est bien que vous parliez de vos fils, parce que sans génération future, il n'y aura pas d'agriculture. Et donc, il faut absolument qu'ils aient de bonnes conditions pour s'installer. Quand ça fait la quatrième génération, que tu rencontres un problème, que tu as toute la pression de toutes ces générations avant toi, c'est comme ça qu'il y a souvent des drames. C'est le poids de toute une famille, comme vous le disiez, Marie-Estelle. Mais j'ai une jolie histoire pour donner un peu d'espoir et montrer aussi aux autres consommateurs que ça a du sens d'acheter français et solidaire. Quand Marcel Darbon, qui a créé la Brique de lait, c'est qui le patron dans l'Ain, le producteur de lait, il a cédé son exploitation. Il y a un petit jeune qui a récupéré l'exploitation. Il rêvait de continuer ce métier, il a pu le faire. Et son frère, qui avait été obligé de partir pour aller faire infirmier parce qu'il ne s'en sortait pas, a pu être rappelé. Et les voilà tous les deux dans la maison, en train de faire le métier de leur père et de leur grand-père. Donc vous n'imaginez pas, quand vous achetez français et solidaire, à quel point vous permettez d'écrire des histoires non seulement belles, mais légitimes et justes.
Et à quel point vous vous protégez vous-même aussi, en fait.
Ouais, et à quel point, vous avez raison de dire ça. Moi, je pense que les producteurs, les agriculteurs en France vont gagner la partie, pas tout seuls, hein. Ils vont la gagner avec nous, les consommateurs.
Ouais, mais je crois qu'il y a vraiment une notion d'éducation, parce que quand on voit des gens qui, pour manger bio, font venir du chinois ou du pas de saison, alors qu'à côté, à 30 km de chez eux, il y a une ferme qui fait du super bon fromage, et oui, c'est pas bio, mais en fait, c'est local, de saison, et c'est fait de manière raisonnable et raisonnée. C'est dommage.
Ouais, mais c'est pour ça. Ça, c'est le fameux bio du bout du monde. Il vaut mieux manger du local, fait dans les règles de l'art, que du bio du bout du monde. Mais c'est pour ça. Merci, pardon, j'y reviens. Hein, on dirait que... merci pour cette passe décisive, comme on dit. Mais pour qu'on y arrive, pour qu'à un moment donné, nous, consommateurs, on ait ces informations, parce que l'éducation, elle passe quand même par la transmission d'informations, d'une information juste. Il faut qu'on sache tout. C'est pour ça qu'il y a un seul vecteur possible pour la suite, c'est la transparence. Où va notre argent, à quoi il sert? Dites-nous ce qu'il y a derrière notre alimentation. Il faut qu'on puisse juger, il faut qu'on puisse aider un producteur qui fait bien les choses. C'est très important qu'on ait cette transparence, parce qu'elle va remettre notre bon sens, je dirais, en pilote de notre consommation.
Et si on en parlait, revient aujourd'hui, mercredi, avec Marie-Estelle Dupont et Romain Desarbres. On parlera de la solitude avec leur invité, le médecin psychiatrique David Gourion. Ce sera entre 15h et 16h sur Europe 1. La solitude, justement, si vous en souffrez, sachez qu'il existe un rendez-vous sur Europe 1, un rendez-vous quotidien pour vous. Écoute bienveillante à votre disposition, une écoute bienveillante et un micro tendu entre 22h30 et 1h. C'est tous les soirs, c'est la libre antenne avec Roland Pérez du lundi au jeudi et Valérie Darmon du vendredi au dimanche. Et je vous propose donc de réécouter quelques témoignages après cette nouveauté musicale, L'aimant, et son titre, Le chat.
Que restera-t-il après ton départ? Un dernier sourire sur un quai de gare. Que restera-t-il après ton silence? Quelques souvenirs malgré la distance et toutes ces habitudes que l'on oubliera. Certains de mes pulls que tu garderas, mais qui prendra le chat? Mais qui prendra le chat? Et pourtant, je voyais mon âme sœur, je pensais. Du son de ta voix, où sera ma maison si ma maison c'est toi? Que restera-t-il quand viendra l'automne? Des photos de toi dans mon téléphone et un changement d'adresse, un fond de vodka et d'autres promesses qu'on ne tiendra pas. Et tu prendras le chat, et tu prendras le chat. Je voyais mon âme. s'est bien aimé, mais mal.
Le chat, une nouveauté Europe 1, il s'appelle L'aimant. Voilà, c'est un morceau qui raconte une rupture sentimentale avec ses non-dits, ses silences, et puis ce moment où il faut encore penser au partage des souvenirs. Alors ça peut être des objets, mais le chat. Eh oui, comment on fait avec le chat? Eh bien voilà, cette chanson, ça parle de ça. Allez, il est temps de retrouver La Libre Antenne, nouvelle diffusion, avec donc des témoignages que vous pouvez redécouvrir cette nuit. La Libre Antenne, je le rappelle, c'est de 22h30 à 1h, avec Roland Pérez du lundi au jeudi, et Valérie Darmon du vendredi au dimanche. Bonsoir Morgane.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Pour nous parler de quoi en ce début d'émission, dites-moi.
Alors, je suis avec vous pour vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement. Donc, j'ai écrit un livre cette année concernant mon histoire avec mon ex qui était un pervers narcissique.
Ah, alors comment s'intitule votre livre ?
Il disait qu'il m'aimait.
Il disait donc, qu'il vous aimait, comme tous les pervers narcissiques, oui. Autobiographique,
voilà,
c'est ça. Vous avez quel âge, Morgane ?
30 ans.
30 ans. Livre à compte d'auteur ? Auto-édition ? Comment ? Auto-édition, votre livre ?
Non, avec la maison d'édition, City Edition.
D'accord. Alors, vous avez 30 ans, vous êtes jeune. Combien de temps vous êtes resté avec ce prédateur ?
À peu près 3 ans.
3 ans. Vous aviez quel âge, entre quel âge et quel âge ?
Je l'ai rencontré, alors nos premiers échanges ont débuté en fin 2020. Je l'ai rencontré début 2021 et nous sommes séparés en août 2023. Et nous étions mariés et je suis d'ailleurs actuellement encore en procédure de divorce.
Ah oui, vous avez été jusqu'au mariage ?
Oui.
Alors, comment vous vous êtes rencontrée avec cet homme ?
C'est cet homme-là justement qui m'a contactée sur les réseaux sociaux.
Donc,
Il avait l'habitude de faire d'ailleurs avec toutes ses victimes.
Il chasse sur les réseaux sociaux, c'est ça ?
C'est un peu ça.
Ouais. Dites-nous lesquels, c'est plus simple pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, comme ça on se méfie. C'est Instagram, c'est TikTok, c'est quoi ?
Oui, Instagram.
Instagram, tout simplement. Alors, il rentre en contact en message privé avec vous ?
C'est ça, oui. Il rentre en privé, en message privé, et puis il commence à sympathiser. Et bon, voilà, c'est un homme qui avait de belles photos, qui présentait bien, qui parlait bien, et qui s'intéressait. Donc, ça donnait envie de continuer la conversation.
Oui. Qui fait quoi dans la vie ? Ou est-ce qu'il a raconté une histoire, un mytho ? Ou est-ce qu'il a vraiment, il fait vraiment ce qu'il a dit qu'il faisait sur les réseaux ?
Son métier, je pense que ça faisait partie des seules choses qui étaient vraies.
Ouais.
Il était directeur de la restauration.
D'accord. Donc vous êtes évidemment happé par la séduction, puisque c'est leur principe, c'est leur mode opératoire. Hein. Donc il vous séduit d'abord par message, et vous rentrez vite dans le réel ou vous restez dans le virtuel ? Combien de temps vous restez dans le virtuel ?
Alors on rentre vite dans le réel parce qu'on a discuté quelques semaines, deux, trois semaines à peu près, et après on a fini par se rencontrer. Et il a voulu de toute façon qu'on se rencontre relativement vite.
Oui.
Et donc après, c'est succédé. On a enchaîné les rencontres et les...
Et la lune de miel.
Voilà, tout à fait.
Au départ. Il est plus âgé que vous, ce monsieur, ou il a à peu près votre âge ? Plus âgé ? Beaucoup ? Beaucoup plus âgé ?
8 ans d'écart.
8 ans, oui. Donc au début, évidemment, Morgane, comme tous les pervers narcissiques, vous remarquez absolument rien, vous êtes sous le charme absolu.
C'est ça, il faisait en sorte d'être l'homme parfait, à tous les niveaux. Attentionné, tout ce qu'il faut.
Alors là, vous vous dites quoi ? Vous dites, ça y est, j'ai trouvé la perle rare ?
Et ça y est, coche toutes les cases, ça y est, c'est l'homme de ma vie.
Et ensuite ?
Et ensuite, plus on avance dans la relation et assez rapidement viennent les premiers couacs, comme on dit. au niveau des disputes, des réactions, du comportement. Et tout s'enchaîne assez vite. Ces mensonges, c'était quelqu'un qui avait un cheminement bien propre. Hein. Il faisait ça avec plusieurs femmes. Il avait plusieurs relations
en même temps,
en parallèle.
En même temps.
Mais des relations, c'est pas. Il était avec moi, il me trompait ou autre. Non, c'était vraiment des relations très. Comment dire, des relations très sérieuses. Hein.
Il était, suivi. Il était en relation suivie avec plusieurs femmes en même temps.
Tout à fait. Il était dans une première relation donc avec la mère de son fils. En parallèle, il était avec moi et il m'a rapidement demandé un mariage. Et il avait également une autre femme, une Suisse, avec qui il était en relation depuis 3 ans, à qui il avait promis de vivre avec, de prendre un appartement sur Paris, etc. Alors qu'il venait de se marier avec moi et qui promettait d'autres choses à la mère de son fils.
Et il n'avait pas peur que son fils vous raconte, par exemple, qu'il était avec, avec sa mère.
Il était petit, il avait 2 ans et demi, 3 ans à l'époque. Et du coup, on ne prêtait pas réellement attention. Il ne comprenait même pas lui-même trop ce qu'il vivait. Donc, et il avait une réactivité de réponse, cet homme-là, qui était tellement impressionnante qu'en fait, on ne pouvait que le croire. Sur ses mensonges.
Il a eu une triple vie pendant toute la durée de votre relation, Morgane. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ce soir sur Europe 1.
Triple vie, même plus. Hein. C'était quelqu'un qui était comme un prédateur. Hein. Il avait vraiment un cheminement bien tracé pour ses conquêtes. Il aimait ça. Il aimait avoir plusieurs relations parce qu'il en avait même une autre. Il prétextait des séminaires professionnels pour aller voir les unes et les autres. Il faisait des cadeaux similaires à chacune. Il voulait faire les tatouages en commun avec chacune des femmes, comme un couple, avancer vraiment dans la vie, etc. Et tout ça en parallèle. Et il avait un schéma bien rodé, on va dire.
Et alors, vous parlez de perversion narcissique. Est-ce qu'il a aussi mis en place avec... parce que là, on est sur un homme qui a plusieurs vies, donc qui trompe, évidemment, qui trahit. Mais la perversion narcissique, il use de son pouvoir de manipulation pour détruire votre estime de vous-même. Donc, est-ce qu'il a aussi, en parallèle, mis en place les fameuses phases d'humiliation, de critique, d'anéantissement ?
Complètement. C'est-à-dire que je suis restée 3 ans avec cet homme qui m'a rabaissée, détruite, qui me mentait et qui me faisait passer pour une folle, qui me disait que c'était moi le problème, qui m'a même... il s'est battu pour la garde de son fils, alors que c'était pas du tout légitime. Et il m'a fait culpabiliser en me disant qu'il n'avait pas eu la garde, c'était de ma faute, c'est moi qui lui avais fait perdre son fils... voilà, pas mal de choses comme ça. Il me rabaissait constamment. Il me dénigrait sur ma façon de m'habiller, sur mon travail qui n'était pas... je gagnais plus que lui, mais lui, ça le gênait. Donc, il me rabaissait beaucoup sur mon côté professionnel. Ouais, et puis, il me mettait plus bas que terre et me regardait pleurer à genoux par terre et
il réagissait pas.
Et lui, d'un froid, voilà, de marbre, à me dire que c'était ma faute.
Donc des critiques constantes, en fait, et quotidiennes.
Oui. Oui, entre autres.
Et à quel moment vous vous rendez compte qu'il ment et qu'il a d'autres femmes ? Parce que là, on a l'impression que vous êtes rentrée en contact avec toutes les femmes, vous connaissez toutes les histoires de chacune. Comment vous avez su ? Ah, c'est le cas ? C'est le cas ? Vous les avez rencontrés ?
Oui, c'est le cas, oui.
Ah oui. Alors, racontez-nous comment... peut-être c'est l'instinct féminin,
peut-être. Il y en a
peut-être.
Eu beaucoup.
Oui.
En fait, j'ai eu des doutes la première année sur une des femmes. Et parce que je suis tombée sur un message qui m'a interpellée, mais il a réussi à me mentir d'une façon tellement... tellement naturel que en fait on pouvait que le croire en me disant que c'était une amie, etc. Du coup, je suis passée outre. Mais le jour où j'ai décidé de divorcer pour de bon, j'ai une de ses ex, donc la mère de son fils, qui est rentrée en contact avec moi quand elle l'a su et qui m'a tout raconté, qui m'a mis en relation avec toutes ces femmes et que j'ai contacté par la suite. Et c'est là où j'ai tout appris, en fait. Donc vraiment, à la fin, j'ai même appris qu'il y avait un groupe WhatsApp qui s'appelait Les Victimes 2.
Ah oui.
Oui, oui, ils étaient presque une dizaine sur ce groupe à se comparer, à s'étaient toutes retrouvées. Et ça, ça s'est passé un mois avant notre mariage. Quand on regarde les dates, ça a commencé à ce moment-là où elles s'étaient toutes retrouvées en disant bah, « moi aussi, il m'a offert ça, moi aussi, il m'a raconté ça
». Et l'ex-femme, à ce moment-là, alors qu'elle est informée, elle ne vous contacte pas avant que vous vous mariez?
Non. Non, elle a voulu, mais elle s'est dit qu'en fait, comme elle avait vécu la même chose, que je ne la croirais pas et que je serais quand même de son côté à lui, et ce qui a été le cas, parce qu'elle a porté plainte pour violence, harcèlement et menaces de mort, etc. Et malgré toutes les preuves qui étaient devant mes yeux, au moment du procès, parce que je l'ai accompagnée hein, à ce procès, il m'a demandé d'être présente pour le soutenir. Et au moment où j'ai vu vraiment toutes ces preuves, même là, j'arrivais encore à croire que c'était lui la victime.
Et vous étiez complètement sous emprise, Morgane.
Complètement. Mais comme on l'a tout été, et elle a vécu exactement la même chose auparavant avec contre la mère de sa fille, parce qu'il avait également une fille.
Ah oui, c'est la même histoire qui s'est répétée.
C'est ça.
Exactement la même histoire. Un enfant avec celle d'avant, qui donc à un moment donné se réveille et va donc porter plainte et va l'attaquer. Et il recommence la même histoire avec celle d'après et ainsi de suite.
Tout à fait. Et à chaque fois, il essaye d'obtenir la garde de son enfant en passant par le père parfait avec la nouvelle. Et il en fait un avec la nouvelle. Et moi, ça a été le cas également. On a failli en avoir un. Mais voilà, c'est vraiment un schéma très répétitif et à chaque fois, ben, moi, vu que j'ai le rôle de l'alcoolique, la folle et alcoolique, c'était la mère de son fils. Après, il y a eu la folle et droguée, ben, c'était la mère de sa fille. Donc, moi, j'étais la folle et jalouse, maladive, toxique. Voilà.
Ça fait peur hein, quand on vous écoute ce piège tellement bien huilé là. Quel a été le déclic pour vous, Morgane, de vous réveiller, de sortir de votre torpeur avec cet homme? Parce que quand il y a l'emprise, c'est très compliqué de voir clair. Hein. Il y a l'attachement qui s'en mêle, même si c'est un attachement toxique, évidemment, et mortifère.
Oui, et puis on s'en rend vraiment pas compte hein, quand on est dans cet engrenage. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a beau avoir nos proches qui vous voient dépérir hein, complètement, parce que moi j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais complètement vidée. Et malgré tout ça, malgré mes proches qui me disaient « mais on dirait que t'es morte de l'intérieur », je ne réalisais pas en fait. Et le déclic, alors ça s'est fait en plusieurs étapes, parce que sinon ça serait trop beau, hein. Ça a été le jour de ma fausse couche. Où là, sa réaction très froide, très accablante aussi, c'est ta faute, c'est toi aussi, tu stresses trop, tu m'as fait perdre notre enfant. Voilà. Il a été vraiment très dur dans ses propos et là, ça m'a mis un coup. Vraiment un choc. Et ça a continué en fait, à faire son chemin pendant à peu près 3-4 mois avant que vraiment, bah, du coup, je prenne contact avec la mère de son fils qui me raconte tout ça. Et là, ça a été l'électrochoc. Et j'ai appris toutes ces histoires. Et c'est là où je lui ai demandé le divorce.
Et c'est vous qui êtes partie de la maison ou c'est lui, finalement, quand vous lui avez dit? Parce qu'en général, ils réagissent extrêmement mal.
Oui, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il a décidé de me détruire, mais d'une autre manière cette fois-ci. Plus dans l'affect ou dans l'attachement, mais... De me détruire de toutes les manières possibles et imaginables. Donc, les excès de violence au début, à casser les choses, mais toujours
La menace,
dans le contrôle.
La menace,
on va dire. Oui, menace beaucoup. Comme quoi il allait m'éclater, qu'il n'en avait rien à foutre d'aller en prison, voilà, des choses comme ça pour m'intimider.
Donc, menace de mort, Morgane ?
Oui, des plaintes ont suivi, hein, mais c'est ce que j'explique aussi dans mon livre.
Ouais.
Parce que j'essaye de mettre plusieurs choses en avant dans ce livre. C'est déjà que les femmes ne sont pas seules à vivre ce genre de choses, hein, que c'est malheureusement assez courant et qu'on est là pour se soutenir. Mais aussi que toutes les femmes qui vivent ce genre de choses, malheureusement, toutes ces victimes, on n'est pas encore assez prises au sérieux au niveau de la justice. Et ça, je l'ai vécu réellement. La gendarmerie, j'y ai passé des heures et des journées par moment. Parce qu'après ces menaces, c'est monté crescendo.
C'est-à-dire ?
Donc on a commencé par les menaces. Après, ça a été... il a déclaré comme quoi il ne vivait plus dans la maison. Donc, serrure changée, etc. Et il est venu avec des amis à lui me cambrioler la maison et me voler que mes effets personnels.
Ah oui.
Donc voilà, pour vraiment m'impacter. Après, il m'a coupé l'électricité. Enfin voilà, tout est monté en fait. Et ça a continué. Il a voulu m'épuiser.
Et ça s'est arrêté. Que vous vouliez partir.
De partir.
Oui. Voilà. Et ça s'est arrêté ou pas ? Aujourd'hui,
non.
Deux ans plus tard.
Oui, il n'a plus d'impact
psychologique
récurrent sur moi, mais je refais ma vie et tout va très bien. Mais nous sommes toujours en procédure de divorce et il ne veut toujours pas accepter les conditions du divorce. Malgré qu'on ait quasi rien à décider. Quoi. Je veux dire, on a une maison en commun, c'est tout, et c'est le notaire qui décide. Hein, c'est factuel, mais malgré ça, il fait traîner depuis plus de deux ans.
Et vous avez réussi à refaire votre vie, à refaire confiance à un homme ?
Oui, ça a été très compliqué, ça a mis du temps, mais quand on tombe sur la bonne personne qui vous comprend, qui comprend votre histoire et qui vous soutient, qui vous montre qu'on peut justement avoir à nouveau confiance, mais... ça aide.
Vous l'avez rencontré comment, votre compagnon actuel, Morgane ?
En Espagne.
En Espagne, dans la vraie vie. En Espagne, dans la vraie
c'est
vie.
C'est ça, oui.
Oui. Et au début, comment ça s'est passé en vous ? Parce que c'est vrai que quand on sort des griffes comme ça d'un pervers narcissique de haute volée, hein, comme votre ex-mari, on va quand même dire ex-mari, ça aidera peut-être d'un point de vue concret à ce que les choses s'ancrent dans la matière. Comment on fait pour refaire confiance à quelqu'un qui nous approche ? Comment on fait pour se laisser réapprocher ?
Très compliqué, hein, j'ai mis du temps. Hein, j'ai mis quand même un an avant de laisser quelqu'un m'approcher et de vous faire confiance. Déjà, la première, quand je me suis séparée, je n'osais même plus sortir de chez moi, hein, tellement il m'avait traumatisée par tout ce qu'il avait pu me faire. Et après, quand j'ai rencontré la bonne personne, je me suis laissée aller petit à petit, mais bon, très méfiante au début.
Vous avez...
Très méfiante, toujours peur, la peur que d'être à nouveau trahie, d'être, de souffrir à nouveau.
Est-ce que vous avez surveillé justement, parce qu'après, très souvent, les victimes ensuite, quand elles sont en thérapie, racontent qu'elles sont, elles se vivent comme des femmes jalouses, alors qu'elles ne sont pas du tout jalouses, c'est qu'elles sont, elles ont été extrêmement trahies, extrêmement blessées. Vous voyez, il faut donner une claque à ces pensées limitatives et limitantes. Il faut qu'elles arrivent à se réapproprier leur tempérament initial. Hein. Elles ont été victimes, donc forcément, elles ont développé une hypervigilance et elles restent dans cette hypervigilance avec le compagnon d'après. Comment vous avez géré cela, vous ?
J'ai essayé de me persuader qu'il n'était pas responsable de ce que j'avais vécu. Et de ces craintes que j'avais. Donc, on a beaucoup discuté, ça a été beaucoup de communication dès le début. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un, comme je vous disais, qui a su comprendre et écouter. et faire en sorte de me rassurer aussi, beaucoup. C'est-à-dire que quand il y avait, par rapport aux réseaux sociaux, aux messages ou autres, le moindre doute, on en discutait et il m'amenait les réponses à mes questions de façon assez naturelle et qui me rassurait de suite. Hein. C'est ce qui a fait aussi que j'ai pu avancer aussi vite, on va dire, sur ce travail sur moi-même.
Il a été patient, en tout cas.
Oui. Oui.
Vous vous êtes fait accompagner par un thérapeute, une thérapeute, ces deux dernières années ou pas? Ou même sur la fin de l'histoire, d'ailleurs, pour pouvoir en sortir?
Alors, surtout sur la fin de l'histoire. J'ai psychologue, j'ai fait hypnothérapeute même, j'avais tout essayé pour m'aider à me convaincre, parce que le plus dur dans ce genre de situation, c'est de se dire qu'on sait les choses, quand on a pris conscience des choses, mais qu'on n'arrive pas de nous-mêmes à sauter le pas, à se dire stop, il faut arrêter. Et pourtant, on en est consciente qu'il faut arrêter. Et ça, c'est la phase la plus difficile. Donc, je cherchais de l'aide à ce niveau-là pour justement sauter le pas.
Vous pensiez, en dépit de la maltraitance et des critiques continuelles, vous pensiez que vous l'aimiez toujours?
Oui.
Oui, vous aimiez votre bourreau.
C'est ça, c'est qu'on n'arrive plus à dissocier en fait l'amour de l'emprise.
Oui.
Et c'est pour ça vraiment que ça m'a tenu à cœur de faire ce livre, pour vraiment raconter toutes les étapes et que toutes ces femmes qui même sont encore dans ce type de relation mais qui arrivaient à s'identifier et se disent « mince, je vis la même chose, c'est pas normal, faut que je fasse quelque chose, faut que je réagisse ». J'avais ce besoin et cette envie d'aider toutes celles qui vivent aujourd'hui et qui ont vécu la même chose que moi.
Oui, je comprends tout à fait. Et dans votre malheur, vous étiez plusieurs, en fait. Hein. Ça aide oui. aussi de savoir qu'il y a plusieurs victimes en même temps. Ça renforce l'idée que la personne est vraiment toxique, oui. traîtresse, que c'est un monstre, en fait.
Que c'est pas nous le problème,
voilà.
C'est lui.
C'est ça. C'est ça.
Tout à fait. C'est vrai que ça a été plus facile à accepter parce que lui, il faisait tout pour me faire croire le contraire, hein, que c'était moi le problème. Mmh. Sauf que quand on se rend compte qu'on est plusieurs, que les process sont exactement identiques sur toutes les histoires, on vous dit, il faisait le coup à toutes, même du tatouage en commun. Nous, il a voulu qu'on se tatoue notre date de mariage en commun. Il avait, avec une autre, il avait la date de naissance. Avec une autre, les initiales. Avec une autre, des logos. Enfin, c'était comme s'il se marquait pour chaque histoire.
Comme un trophée, en fait. Hein.
C'est ça. Et c'est quand on discute avec ces autres femmes et qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est pas la seule, on se dit, en fait, c'est pas moi le problème. Et pourtant, Dieu sait que je me suis remise en question plus d'une fois à cause de lui.
Et en fait, il faisait la liste sur sa peau, en fait, hein, des femmes qu'il arrivait à piéger, pas à conquérir, mais à piéger.
C'est un peu ça, et aujourd'hui encore, il a recommencé. Hein,
il sévit toujours. C'était ma question d'après, c'était la justice, oui. Qu'est-ce qu'elle fait, en
oui.
fait
Mais en fait, toutes ces femmes, en plus, ont ou déposé des mains courantes ou des plaintes, mais qui ne sont jamais allées au bout. Tout comme la mienne, ma plainte est allée jusqu'au jugement, mais qui n'a rien donné. Parce que forcément, comme ils ont dit au jugement, je n'ai pas fait éclater la tête. Donc, c'est pas grave. Voilà. C'est rien.
Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il faut, parce que c'est vrai que finalement, ils s'arrêtent peut-être à la limite. Il menace, c'est le règne de la terreur, avec plein de femmes en même temps, donc on voit bien le processus, et la justice ne peut rien faire parce qu'il ne dépasse, dépasse pas les bornes. C'est quand même, c'est quand même le monde à l'envers, en fait. Il en faut combien? Il faut qu'il aille jusqu'où?
C'est la question qu'on se posait aussi, parce que justement, avec toutes les preuves qu'on a amenées, j'ai même des témoins de ses menaces, etc., de son comportement violent, virulent, de son harcèlement, même sur mon lieu de travail, de son harcèlement moral avec le, tout ce qui est cambriolage, etc. Tout a été pris en compte, mais il n'a pas été jugé. Et pourtant, il était en récidive parce qu'il a été jugé, par contre, pour son ex, avec les menaces de mort, parce qu'elle avait réussi à l'enregistrer quand il l'a menacé, chose que moi, je n'ai pas réussi à faire. Je n'ai pas pensé sur le moment. Et malgré ses récidives, malgré toutes les preuves apportées avec toutes les plaintes de ses autres femmes, tous les témoignages ou autres, je suis tombée sur une injustice. Clairement, aujourd'hui, je revendique l'injustice parce que les juges n'en ont rien eu à faire. Le dossier n'a même pas été lu. Voilà. Et puis, ils l'ont clairement dit, manque d'éléments et de preuves.
Manque d'éléments à charge.
Voilà, le procureur a même dit, de toute façon, elle ne s'est pas fait étrangler ou péter la gueule. Donc,
Mais vous êtes combien dans ce groupe?
Une dizaine.
Donc il y a une dizaine de femmes connues entre elles. Il y a toutes les autres qui ne se sont pas manifestées et qu'il est en train de piéger de la même manière.
Tout à fait. Sachant qu'en plus, au moment où je lui ai dit que c'était terminé et qu'il a quitté la maison, j'apprends que, même pas un mois après, il présente son fils à une nouvelle femme avec qui, du coup, il était depuis un moment, je pense. Bon, pour lui présenter son fils, quand même. Et avec laquelle il a fait un tatouage en commun, avec laquelle il a vécu par la suite et avec laquelle il est toujours aujourd'hui. Mais voilà, donc il a recommencé le processus.
Et vous avez tenté de joindre cette femme, toutes ?
Non. Non, parce que vu que moi je suis en procédure pour le jugement, pour menace, etc., et que lui avait porté plainte contre moi également,
oui.
J'aurais pu être embêtée.
Poursuivie. Là aussi, oui. C'est assez incroyable, en fait. Hein.
Que bien sûr, à chaque fois qu'une femme porte plainte contre lui, il porte plainte en retour en disant qu'on est folle. Bon, je vous rassure, sa plainte a été classée sans suite en même pas 24 heures. Oui.
Mais il faut le signaler sur tous les réseaux sociaux, il faut le signaler sur toutes les applis de rencontres. Après, il pourra sévir dans la vie. Hein, ce qui est déjà beaucoup trop pour lui. Ah. Mais au moins, le signaler partout où c'est possible de le signaler.
Ben là, du coup, il s'est mis à Tinder, parce que j'ai appris que cette femme-ci était rencontrée sur Tinder.
Oui, c'est pour ça. C'est important de le signaler. Toutes les applis de rencontre, ça, vous pouvez le faire, en revanche. Vous êtes quand même une dizaine de femmes. Hein.
Oui, mais malheureusement, c'est quelqu'un qui cherche toujours à nous nuire. Donc, s'il voit ça, il va porter plainte également pour...
Contre vous toutes.
C'est ça. Ah, oui.
J'ai une dernière question, Morgane. Est-ce que, avant de rencontrer cet homme, vous aviez, vous pensez, une bonne estime de vous ou pas ?
J'étais en plein changement de vie. J'étais à un moment de ma vie où j'avais beaucoup de changements, que ce soit professionnel, personnel. Je sortais d'une relation un peu complexe. Donc j'étais dans une période de ma vie où j'étais assez fragile, on va dire.
Oui, donc il l'a senti.
Complètement. Puis d'ailleurs, il ne s'est pas gêné après pour essayer de contacter mon ex, bon, comme il avait fait avec les autres également, hein, pour essayer de le retourner contre moi et de le monter pour porter plainte également, etc. Bon, ah oui. Ça n'a pas fonctionné, hein, mais bon, il a essayé de me nuire par tous les moyens possibles.
Merci beaucoup Morgane d'être intervenue ce soir sur l'antenne d'Europe 1 pour nous raconter votre histoire. Donc votre livre, je rappelle le titre pour les auditeurs et les auditrices que le harcèlement intéresse. Donc il disait qu'il m'aimait. Redonnez-nous la maison d'édition.
City Edition.
Merci beaucoup Morgane d'être intervenue ce soir et pour tirer de nouveau cette sonnette d'alarme. Comme quoi il faut vraiment, vraiment être vigilant.
Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Alors, on a eu une injonction, Laura, je dois vous le dire. Florian nous a dit, attention, il faut appeler Laura, elle attend notre appel. Donc, il fallait vraiment que l'on vous parle et que l'on se parle. Surtout que vous disiez que votre maman était déjà intervenue sur cette antenne il y a quelque temps.
Oui, ma maman est intervenue en 2018, je crois.
Elle avait appelé pourquoi votre maman, vous saviez ?
Parce qu'elle s'inquiète beaucoup pour moi et encore actuellement, parce que j'ai un gros problème d'alcool, d'addiction à l'alcool.
Oui.
Et que c'est pas facile pour elle. Et que maintenant, en plus, elle est assez âgée. Enfin, elle a 72 ans maintenant, donc c'est compliqué pour elle de. Elle peut plus gérer, en fait.
Vous viviez avec elle ou vous vivez avec elle, non ?
Non, je ne vis pas avec elle, mais c'est hors de question que je vive avec elle. Elle ne veut absolument pas... Bon, là, actuellement, elle est hospitalisée parce qu'elle s'est cassée le col du fémur.
Ah, mince, oui.
Récemment.
Mais vous devez gérer à la fois votre pathologie, on va en parler, votre addiction à l'alcool, mais vous devez gérer aussi la peine que vous lui faites, le tracas que vous provoquez, c'est ce que vous pensez, en tout cas, ça vous perturbe aussi, ça ?
Ah oui, bien sûr, oui. Oui, c'est compliqué, il y a beaucoup de culpabilité.
Et malgré cela, vous avez réussi à en parler avec elle. Vous avez essayé de comprendre pourquoi vous étiez tombé dans cette addiction, dans ces problèmes d'alcool.
On a essayé d'en discuter, mais c'est un peu compliqué à comprendre parce que dans toute ma famille, que ce soit ma maman ou mon papa, ils ont sombré aussi dans cette pathologie.
Ah, votre maman aussi à l'époque ?
Ouais.
Et oui, c'est pour ça qu'elle est très 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 perturbée et elle doit culpabiliser de se dire que ça se reproduit dans sa descendance, donc de vous. Vous avez d'autres frères et sœurs ? Vous êtes fille unique ?
Oui, non, j'ai deux frères. Il y en a un qui va très bien, qui a d'autres compulsions, on va dire, et un autre grand frère qui lui aussi a des problèmes d'addiction à l'alcool.
C'est quelque chose qui vous était familier, l'alcool ? C'est ce que vous dites quand vous étiez jeune ?
Oui, depuis toute petite, oui.
Vous avez toujours vu vos parents boire ?
Oui, tout à fait, ouais.
Et pourtant, votre mère s'est soignée à un moment donné ? Elle a arrêté ?
Plus ou moins. Disons qu'on n'a pas la même forme d'alcoolisme. Ma maman, elle peut s'arrêter très facilement pendant quelques semaines. Mais par contre, une fois qu'elle perd le contrôle, en fait. Et mon papa, lui, il est décédé maintenant, mais mon papa, lui, c'était quotidien, un peu comme moi.
Et vos parents, eux, cette consommation d'alcool était due à quoi ?
Peut-être à leur séparation. Je sais pas trop.
Parce que vous les avez vus boire de l'alcool, mais quand ils s'étaient séparés, mais quand vous viviez avec vos parents, non, ils n'étaient pas.
J'ai pas vécu avec mes parents, en fait.
Ah, vous les avez toujours connus séparés.
Ouais, mon papa et ma maman sont séparés. J'avais 10 mois. Donc.
Et oui, donc. Donc vous avez baigné, le mot est peut-être pas approprié d'ailleurs, mais vous avez baigné dans cette ambiance quand même de avinés, un peu de parents avinés.
Ah oui, complètement.
Et vous vous êtes pas dit quand vous aviez 12 ans, 14 ans, en tout cas peut-être un peu plus âgé, oui, vous vous êtes pas dit « Ah non, mais moi je ne tomberai jamais là-dedans » ?
Si, je me le suis dit et puis au final, j'ai pas pris le contre-pied. Malheureusement.
Vous ne l'avez pas pris parce que vous avez eu des difficultés dans la vie. Il y a eu les difficultés sont celles déjà de vos parents, de ce que vous aviez connu et de cette désorganisation un peu de ce déséquilibre dont vous avez été un peu victime dans votre famille, forcément. Mais vous avez eu ensuite des difficultés.
Oui, un petit peu. Disons que c'était un petit peu compliqué de jongler entre mon papa, ma maman, qui avait tous les deux des problèmes. Et puis après, moi, à l'adolescence, je suis vite tombée dans le cannabis, dans l'alcool. J'ai vraiment pas été cadrée, en fait.
Oui, c'est ça. Vos parents vous laissaient faire ce que vous vouliez ?
Ah oui, complètement, oui, oui. Ouais. J'étais très libre.
Et oui, pas de structure, une influence. Évidemment, quand on est entouré aussi de personnes qui peuvent aussi tomber un peu là-dedans, notamment dans le cannabis, vous y tombez facilement, d'autant que ça vous permet d'oublier beaucoup de choses.
Oui, c'est sûr. Et puis je pense que j'aurais bien aimé un service militaire maintenant que j'approche les 40 ans, et je me dis qu'un bon service militaire, ça m'aurait peut-être bien aidé pour me cadrer.
Vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie ? Vous avez eu un amoureux ?
Oui, j'ai eu des relations, mais ça n'a pas duré.
À cause de ça, justement, à cause de l'alcool ?
Entre autres. Pas que à cause de ça, mais bon, je dirais à 60%, oui. Ma dernière relation, en tout cas, oui, ça a été...
En tout cas, vous n'avez pas fait les bonnes rencontres qui vous ont permis d'avoir suffisamment envie d'en sortir ?
Non.
Et professionnellement, vous avez pu acquérir une formation ?
Oui, ben, je suis diplômée en droit public, donc je travaille dans une collectivité. Mmh. Ouais, là-dessus,
Vous avez assuré, comme on dit, oui.
Ouais. Là-dessus, j'ai assez assuré. Et puis après, bah, mes premières années de travail, ça a été. Mais c'est vraiment au décès de mon papa où j'ai vraiment chuté.
Pourquoi ? Parce que vous étiez très proche de votre papa ou ?
Eh ben, un petit peu, sachant qu'il était abstinent depuis 3 ans avant son décès. Donc on avait pu se rapprocher.
Oui.
Ce qui était chouette, il s'est remis à... Il a écrit des livres, il a fait des peintures.
Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre papa ?
Mon papa, il était fonctionnaire aussi, il était DGS dans une commune.
D'accord.
Donc okay. Il avait quand même pas mal de responsabilités.
Oui.
Avec des relations avec les élus.
D'accord.
Pas toujours facile. Hein.
Vous aviez une admiration pour votre papa ?
Une espèce d'admiration, ouais. Ouais, quand même. Et après, je viens d'une famille de fonctionnaires. Hein.
Oui,
je
ne
suis
ouais.
pas fonctionnaire pour rien.
Mais vous vous dites, quel gâchis ?
Ben, le gâchis, c'est que il a été abstinent 3 ans et il est mort après 3 années. Donc, ouais, ça m'a brisé le cœur et ça a brisé le cœur de mes frères aussi. Mmh. Parce qu'on avait, retrouvé vraiment une relation tous ensemble.
Oui, ces trois dernières années, vous avez pu apprécier votre père à sa juste valeur.
C'est ça, exactement.
Et votre mère aussi, aujourd'hui, ne boit plus ?
Si, c'est pour ça qu'elle s'est cassée le col du fémur, je pense. Même si elle ne l'avoue pas. Ouais, ma maman a une consommation. Après, ça ne va pas être tous les jours. Mais quand elle va ouvrir une bouteille de vin, elle va se siffler la bouteille de vin. Et je pense que c'est pour ça qu'elle s'est cassée la figure et qu'elle ne l'avoue pas.
Bah, de toute façon, c'est une forme de déni, hein, parce que l'alcoolisme, c'est pas juste une question de volonté ou de faiblesse, hein, c'est une véritable maladie qui est reconnue par l'OMS. Hein, donc, elle peut se soigner, mais elle se soigne pas seule. Il faut accepter d'être soigné, il faut rencontrer les bonnes personnes, suivre les bons traitements. Ce qui est important pour vous, Laura, aujourd'hui, c'est de ne pas rester isolée.
Non, malheureusement, je le suis beaucoup.
Et oui, c'est ça, parce que l'isolement contribue à ne pas pouvoir s'arrêter. Donc, vous avez un bon médecin traitant ?
Oui, oui, puis là, j'ai prévu de reprendre le travail dans 15 jours, à mi-temps.
Oui, et il faudrait que votre médecin traitant vous dirige vers ce qu'on appelle un centre de soins d'accompagnement, vous savez, de prévention d'addictologie.
Oui, l'EXAPA, oui.
Exactement, l'EXAPA. Ces centres sont gratuits, ils sont confidentiels.
Je suis un peu saturée quand même.
Ah, vous pensez que vous ne pourriez pas avoir...
Vers chez moi, ils sont saturés. Ben, je connais. Hein.
Et puis, les groupes de parole, vous avez essayé ?
Oui, j'ai essayé les alcooliques anonymes et ça ne m'a pas du tout plu.
Ah bon, pourquoi ? Parce qu'on les conseille très souvent. Alors, évidemment, moi, je conseille quelque chose que je ne connais pas. Donc, j'ai toujours l'impression que dès qu'il existe des groupes de parole ou des associations qui viennent en aide aux personnes